Jacques de la Bastide, bonsoir, ravi de vous avoir avec nous sur nos ondes de Radio Maria France.
Bien, merci de m'inviter justement avec vous ce soir pour parler de Saint-Joseph qui nous rassemble et qui nous rassemble de manière merveilleuse parce que c'est un grand bonhomme. Voilà.
Un grand bonhomme, vous faites bien de le dire et on l'évoque dans cette émission sous tous les aspects. Ravi que vous apportiez votre couleur, votre intériorité à faire grandir si besoin en est cette dévotion et cet attachement à Saint-Joseph, comme vous me le disiez. Vous voyez comme titre de cette émission Saint-Joseph ou la troisième personne de la Sainte Famille, et c'est quand même beaucoup. Et avant de rentrer dans le corps de cette émission, je vous laisse vous présenter peut-être à nos auditeurs et à nos auditrices.
Oui, bien sûr. Écoutez, moi j'ai 67 ans, je suis marié depuis bientôt 45 ans, j'ai 4 enfants, mais ils sont tous mariés aussi, ils aiment le Seigneur et ça fait plaisir. Et ils ont 13 petits-enfants, de 1 à 15 ans, voilà. J'ai longtemps été avocat à Paris pendant 40 ans, si vous voulez. Puis maintenant, je suis en retraite depuis 2 ans. Avec mon épouse, on a participé aussi, et on ne cesse d'y être, aux équipes Notre-Dame, qui nous ont beaucoup marqués. Et de mon côté, j'ai été aussi particulièrement amené à découvrir Marie et parraine de la Sainte Famille à Medjugorje. C'est là où vraiment j'ai découvert Marie avec sa place complètement unique dans l'histoire du salut avec Saint-Joseph. Et puis, avec d'autres amis, on a créé aussi l'association Marie de Nazareth, qui s'était donné pour objectif de créer à Nazareth, donc en Terre Sainte, juste à côté de la basilique de l'Annonciation, un centre marial pour aider à faire connaître Marie et puis la Sainte Famille. Et c'est véritablement dans ce cadre-là que j'ai découvert justement la présence et la place de Saint-Joseph. Voilà.
Merci pour cette présentation. Et si nos auditeurs ne connaissent pas le travail remarquable qui est fait à Marie de Nazareth, je les invite chaleureusement à y aller de même pour les équipes Notre-Dame. Et je crois savoir maintenant que c'est en creusant l'oraison que Saint-Joseph est apparu. Parce que Sainte Thérèse d'Avila le disait magnifiquement bien, si vous n'avez pas de maître d'oraison, prenez Saint-Joseph pour guide et il vous le guidera très bien.
Oui, c'est impressionnant. Écoutez, c'est vrai que moi, ce qui me fascine véritablement lorsque Saint-Joseph est évoqué, c'est de voir comment le plan du salut a été organisé. Je m'explique, longtemps, on parle volontiers de Jésus et de Marie, parce qu'historiquement, c'est ainsi que les choses se sont emmanchées, j'allais dire. L'Église a laissé tomber Saint-Joseph, parce que l'Église avait d'autres préoccupations, il fallait faire reconnaître Marie, Mère de Dieu. C'est tellement compliqué à faire accepter qu'il y avait des débats qui ont envahi la scène des réflexions et on a délibérément mis de côté Saint-Joseph. Saint-Joseph ne renaît que tardivement, on peut dire à partir du XIVe siècle. Mais si on remonte justement à l'histoire du salut, et si on prend ne serait-ce qu'un instant, quelques minutes pour regarder comment les choses se sont organisées d'un point de vue chronologique, on découvre quelque chose qui est essentiel pour bien situer chacune des personnes, tout à la fois de la Sainte Trinité et de la Sainte Famille. Moi j'ai été, je le dis aussi, fasciné par un livre qui a été écrit, je crois, il y a maintenant pas loin d'une vingtaine d'années, un petit peu moins peut-être quand même, par un type qui s'appelle Gilles de Christen et qui s'appelle « Le mystère de Saint-Joseph ». C'est vraiment un laïc qui a apporté un regard très nouveau à mes yeux sur justement la présentation de Saint-Joseph, surtout pour les personnes comme moi qui suis un laïc, père de famille, et sachant que jusqu'à présent, il y avait beaucoup plus de religieux très savants qui avaient justement des paroles prononcées autour de Saint-Joseph. Et lui a apporté comme laïc à mes yeux une vision et une présentation, il est aussi historien, qui était remarquable et à mes yeux éblouissante. Je m'explique. Tout le monde sait que avec la création du monde, il y a eu la création de l'homme et de la femme à travers Adam et Ève, et puis bien qu'ils aient été créés à son image et à sa ressemblance, ils n'ont pas suivi le chemin qui leur était proposé dans ce jardin d'Éden, puisqu'ils ont délibérément accepté de sourire au péché et de rentrer justement dans ce péché originel qui était donc la chute qui nous a tous marqués. L'homme s'est coupé de Dieu, la famille humaine s'est déchirée, mais de toute éternité, C'est-à-dire, la Sainte Trinité avait prévu de toute façon qu'il fallait que tous les hommes soient sauvés. Mais lorsque je dis que l'essentiel maintenant va se jouer, c'est de regarder comment les choses ont été organisées. Parce qu'il faut, c'est une chose de décider que, il va y avoir l'incarnation, c'en est une autre de regarder comment, d'un point de vue pratique, elle a été mise en œuvre. Et ça, c'est hyper éclairant. C'est hyper éclairant parce qu'on commence précisément par parler de qui? Ben de la personne la moins importante, du moins en apparence, c'est le Saint Joseph. Parce que si on veut enfin, suivre le chemin qui a été retenu par la Sainte Trinité, on constate que le point de départ, c'est la création de Saint Joseph. La création de Saint Joseph avec, par hypothèse, toutes les qualités qui devaient être nécessaires à la future mission qui allait lui être confiée. Combien de temps Saint Joseph est-il né avant Marie? Personne ne pourra le dire avec précision. Est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, plus, moins, j'en sais rien. Peu importe, ce qui est une chose où tout le monde s'accorde, c'est que Saint Joseph, il était plus âgé que Marie. Après la création de Saint Joseph, il y a eu le deuxième temps, c'est la création de Marie. Alors là, on est plus informé par les évangiles sur le moment auquel cette naissance a pu intervenir. Grosso modo, on s'accorde pour dire que c'est environ moins 16 avant Jésus-Christ. Ça correspondait d'ailleurs au début de la construction du temple par Hérode à Jérusalem. Bref, il y a la création de Marie. Et là, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, le chef-d'œuvre de la création. Comme dit Grignion de Montfort, Dieu le Père, hein, a fait un assemblage de toutes ses grâces et il a appelé ça Marie. Et puis nous savons aussi que il y a eu ce privilège exceptionnel, unique, qui a été reconnu par le pape Pie XI, celui de l'Immaculée Conception. Donc le privilège, c'est que par anticipation et au futur mérite de Jésus-Christ, dès sa conception, elle a été préservée de toute tâche du péché originel. Donc elle n'était en aucune manière attirée par le péché, même si la possibilité justement de péché lui était ouverte, sinon ça serait un robot, ce serait plus un homme libre. Donc premier temps, création de Joseph, deuxième temps, création de Marie, troisième temps, rencontre de qui? Ben, de Joseph et de Marie. Il a fallu organiser cette rencontre. Alors comment et où s'est-elle réalisée? Là aussi, l'Évangile ne dit pas grand-chose. Hein. Il y a une grande tradition qui dit que ça a pu se faire à Jérusalem autour du grand prêtre, mais ça peut être le rabbin aussi local à Nazareth qui a pu faire la rencontre. Et après la rencontre, il y a eu le mariage. Le mariage de Joseph et de Marie. Je dis bien le mariage, on en reparlera peut-être dans un instant. Et ce n'est qu'à compter du moment où ces préalables ont été posés, à savoir un homme, une femme, un homme et une femme mariés, que, il était possible de poursuivre dans le plan du salut. Et le plan du salut, c'était justement la visite de l'ange Gabriel à Marie, donc l'Annonciation qui précédait l'incarnation. Mais on ne peut pas imaginer un seul instant d'avoir oublié les préalables que je viens de rappeler. Donc un homme, création d'un homme, création d'une femme, rencontre de cet homme et cette femme, et mariage, et un vrai mariage. Et on en reparlera peut-être dans un instant. Il y a une synthèse qui a été remarquablement faite par le pape Paul VI aux Équipes Notre-Dame en 1970. Oui. Il a dit que lorsqu'il regarde l'histoire, il voit qu'au début du Nouveau Testament, il y a un couple, c'est celui d'Adam et Ève. Et au début du Nouveau Testament, il y a un autre couple, c'est celui justement de Joseph et de Marie. Et il constate que, alors que le premier couple, c'est celui à partir duquel le mal a trouvé sa source qui a inondé le monde, avec le deuxième couple, celui de Joseph et Marie, là, il dit, c'est le couple de Joseph et de Marie, c'est, je cite, le sommet d'où la sainteté se répand sur toute la terre. C'est quand même intéressant lorsqu'un pape écrit ça, je trouve. Voir que c'est un couple qui est ce sommet à partir duquel la sainteté se répand sur toute la terre, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être médité. On voit véritablement que on ne peut pas penser l'Église sans la rattacher à une famille. L'Église est une famille avec les liens familiaux justement qui peuvent s'y nouer. Et on ne peut pas comprendre justement tout ce qui a pu être le quotidien de Jésus si on n'a pas préalablement en mémoire tout ce qui a pu être vécu par sa maman et son père adoptif avant sa naissance et durant les premières années et puis tout le reste. Puisque la mission fondamentale qui était celle de Joseph et de Marie, c'était précisément de permettre à Jésus dans son humanité, puisqu'il était tout à la fois totalement Dieu, mais totalement homme aussi, de grandir dans son humanité. Et pour faire un grand bond en avant, moi je suis fasciné aussi par la prière qui a été donnée par le pape François dans sa dernière encyclique sur Saint-Joseph, la Patrice Cordée, où il fait une synthèse extraordinairement concise, mais si belle, de la mission de Saint-Joseph. Lorsqu'on voit des termes qu'il utilise, il dit bonjour au... il donne trois qualificatifs à Saint-Joseph dans ses relations avec, avec le Christ, dans son humanité. Il dit qu'il est, un, le gardien du Rédempteur. Il dit que, deux, Dieu lui a confié à lui son Fils. Et trois, que la mission spécifique de Joseph, c'était de faire que le Christ devienne homme. Il lui dit, avec toi, le Christ est devenu homme. Ben, moi, je trouve ça bouleversant. La mission de Joseph, c'est de permettre à l'humanité de Jésus de se manifester pleinement. Et lorsqu'on voit justement l'importance phénoménale de ce rôle, on comprend l'importance aussi du rôle de la famille pour permettre à un enfant, quel qu'il soit, a fortiori lorsque c'est le Fils de Dieu, de grandir dans son humanité, parce que c'est une composante essentielle justement de sa vie d'homme, c'est d'être véritablement un homme complet. Et un homme complet ne peut se construire que si il est précisément soutenu dans son éducation, dans sa croissance, par une maman et un papa. Et je trouve extraordinaire de voir justement combien Jésus a voulu s'inscrire dans cette dimension qui est notre dimension commune. On est d'un père et d'une mère, et ce sont eux qui sont nos éducateurs et qui nous conduisent dans la vie et qui nous conduisent justement pour être pleinement libres et à réaliser notre vocation propre. Enfin, c'était juste un petit mot vers cette mission qui permet de comprendre combien tant Marie que Joseph ont été essentiels pour permettre à Jésus d'être complètement dans sa mission de sauveur. Et il lui fallait qu'il soit complètement homme et qu'il puisse rentrer dans notre humanité jusqu'au bout du bout du bout. Voilà. On est obligé d'aller très vite parce qu'on a très peu de temps, mais ce qui me fascine aussi, c'est de regarder, même très rapidement, ce qui a précédé l'incarnation elle-même, pour voir combien ce n'est pas parce qu'ils ont été choisis pour être la maman et le papa adoptif de Jésus que pour autant ils ont été préservés de toute difficulté. Et bien au contraire, lorsqu'on regarde les premiers mois qui ont suivi la rencontre de Joseph et de Marie, on se aperçoit qu'ils ont été très vite invités à être d'une docilité vis-à-vis de l'Esprit Saint qui est vraiment exemplaire pour nous. Tout le monde sait que Marie, avec le privilège qui était le sien, priait dans sa jeunesse, dont il est fort probable qu'elle se soit passée pour l'essentiel au temple, pour hâter la venue du Rédempteur qui était annoncé. Et elle avait senti qu'elle avait une mission particulière complètement atypique, c'est de consacrer sa virginité pour hâter le moment du Messie qui était attendu et annoncé par tous les prophètes. Donc, je retiens une chose, c'est que Marie, elle était partie dans sa jeunesse dans la perspective de rester vierge. Sachant aussi que c'était complètement atypique parce que dans la culture locale, la maternité était au contraire le signe d'une bénédiction particulière donnée par le ciel sur la femme. Et Marie acceptait justement de faire ce sacrifice pour permettre la venue du Christ attendue et annoncée vienne plus rapidement. Et lorsqu'elle a été amenée, en quittant le temple probablement, à s'ouvrir au mariage, il est clair que ça a été certainement quelque chose qui n'a pas manqué de la surprendre, et en même temps, elle est à l'image de son futur mari, Joseph, toujours accueillante à la volonté de Dieu, toujours prête à la faire. Mais ce que je retiens, c'est que d'un point de vue humain, le fait d'avoir été, dans un premier temps, consacrée dans sa virginité, puis subitement invitée par le grand prêtre de Jérusalem ou par le rabbin de Nazareth à rentrer dans le mariage, c'est d'un point de vue psychologique une modification de perspective qui est exactement à 180 degrés. Et Marie était prête à accueillir cette nouveauté qui était demandée. En même temps, ça ne lui interdisait pas de faire part à Joseph, donc à son futur mari, le projet qui initialement était le sien, donc de rester dans la virginité. Et tout porte à croire que tant le grand prêtre que le rabbin a pu inviter Marie à rester dans la vérité et à expliquer à celui qui serait désigné pour être son mari la particularité justement qui était la sienne. Mais je retiens qu'il y a donc un renversement à 180 degrés qui a été demandé à Marie. On peut imaginer qu'il en allait de même pour Joseph. Joseph, mais ça c'était beaucoup plus classique, faisait très probablement partie de ces jeunes qui restaient dans le célibat. Mais chez les hommes, c'était beaucoup plus commun, alors que ça ne se voyait jamais chez une femme en Israël. Et ce que je renote, c'est que Joseph a accepté d'accueillir spontanément, justement, la spécificité de Marie, qui lui disait qu'elle ressentait dans son cœur cette nécessité de conserver sa virginité. Et on peut très facilement imaginer qu'ils se soient mis d'accord pour un mariage qui ne prévoyait pas la consommation. Et soyons clairs d'ailleurs, ils étaient aidés en cela par la manière dont à l'époque le mariage s'organisait chez les Juifs, c'est-à-dire ça demeure vrai. Nous, il y a les fiançailles qui précèdent le mariage, ben là, le système juif n'est pas du tout le même. On commence par le mariage et on diffère de 9 à 12 mois, et c'est encore, je crois, encore le cas, le début de la vie commune, tout simplement parce que historiquement, ça permettait d'organiser les conventions matrimoniales. Donc, juste après leur mariage, il était complètement logique qu'ils ne commencent pas leur vie commune, puisque c'est ainsi que les choses s'organisaient dans le peuple juif. Et donc, ça ne posait aucun problème. Et on aurait pu imaginer qu'au bout de 9 mois ou 12 mois, ils aient décidé spontanément de se marier sans pour autant consommer le mariage. Et ils auraient été, comme de nombreux couples, infertiles, eh bien, sans pouvoir justement mettre au monde un enfant, alors que c'est toujours, ou du moins le plus souvent, le but poursuivi, l'un des buts poursuivis par l'union conjugale. Mais la Providence avait des desseins différents. Et là, c'est quand même très intéressant de voir comment aussi les choses ont été organisées. On ne sait pas depuis combien de temps le premier temps du mariage, donc devant le grand prêtre ou le rabbin, avait été célébré, mais mettons que ce soit 3 ou 4 mois après, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que la cohabitation n'avait pas commencé. Et l'ange Gabriel a été envoyé à qui? Non pas aux deux, mais uniquement à Marie. Et vous connaissez justement le dialogue entre l'ange Gabriel et Marie, et les questions posées par Marie. C'est d'abord non pas des questions pour éclairer son jugement, mais des questions pour éclairer le comportement qui devait être le sien pour l'avenir. Elle se demande, est-ce qu'il faut que, contrairement à ce que je pensais, je quitte ma virginité et que je consomme le mariage? Bref, éclairez-moi pour saisir justement où, enfin, comment la volonté du Seigneur veut s'exprimer. Et c'est là qu'il lui a été dit, et ça devait être pour Marie une joie immense, que le Seigneur non seulement conservait le désir de virginité qu'il habitait, mais le sublimait d'une certaine manière, puisque elle allait être mère sans cesser d'être vierge. C'est quand même un événement exceptionnellement beau, mais qui traduit aussi l'extraordinaire, tout à la fois, exigence qui peut exister de la part de notre Créateur à l'égard de sa créature, et en même temps infini respect tant pour la liberté, parce que Marie a été pleinement libre et éclairée dans son jugement avant de donner sa réponse, et également, Marie a pu voir combien la vocation à la chasteté, même dans le mariage, était respectée. Voilà. Je m'aperçois que le temps tourne très vite, je vais peut-être aller un petit peu plus vite que je ne le pensais, mais je retiens simplement ensuite que pour Joseph, ça a été également des moments d'une grande difficulté, d'une grande souffrance, parce que vous savez qu'elle est partie aider sa cousine Elisabeth qui était enceinte, alors que normalement d'ailleurs c'était un âge où ce n'était plus possible d'attendre un enfant, et Marie avait certainement conservé le secret sur justement l'événement qui lui avait été donné de vivre, considérant qu'il ne lui appartenait pas de dévoiler le secret du roi. Et qu'elle laissait donc entièrement à Dieu le Père le soin de prévenir Saint-Joseph quand il le voudrait, au moment où il le voudrait, de la manière qu'il le voudrait. Mais dans son, on peut imaginer aussi qu'elle pensait que, à la faveur justement de son déplacement à Ein-Garen, donc juste à côté de Jérusalem, pendant 4 mois à peu près, Joseph aurait été informé, peut-être de la même manière qu'elle l'avait été par l'ange Gabriel, ou d'une autre manière, mais qu'il aurait été informé. Or, lorsqu'elle revient, elle voit dans le regard que porte Joseph sur elle, que Joseph n'est informé de rien du tout. Et elle ne dévoile pas pour autant ce secret. Et en même temps, ça a été pour ce couple un moment d'une intensité et d'une violence psychologique considérable. Ce magnifique hymne acatiste qui évoque chez Joseph qu'il est secoué de pensées contradictoires. Et on le comprend bien. Il voit sa femme comme il l'a toujours connue, avec un visage angélique qui reflétait la pureté permanente, et en même temps, il ne peut plus que constater qu'elle est enceinte. Et lorsque quelqu'un est enceinte, ça veut dire qu'il y a un homme avec qui elle a pu se rencontrer pour justement devenir enceinte, parce que ça n'existait pas d'autres solutions à l'époque. Et c'est dans cette tempête de pensées contradictoires que Saint Joseph a fait quelque chose, a une attitude qui, je trouve, était sublime, parce que il a décidé de répudier Marie, mais de la répudier en secret. Et qu'est-ce que ça veut dire ? La répudiation, c'était ce que la loi obligeait de faire à tout juif lorsque l'un des deux époux n'avait pas respecté justement la règle du célibat durant la période qui suivait immédiatement le mariage et avant le début de la vie commune. Et donc le principe, c'était que l'épouse qui avait fauté durant cette période devait être lapidée. Du moins, c'est ainsi que la règle était exprimée. Théoriquement d'ailleurs des deux côtés, mais elle n'était jamais appliquée à l'égard de l'homme. Il n'y avait que la femme qui pouvait être lapidée, mais pas l'homme. Mais Joseph ne pouvait pas imaginer d'accepter que sa femme soit l'objet justement de la vanité publique, alors que il savait au fond de lui-même que ce n'était pas possible que Marie ait pu fauter. Et donc, il a trouvé, et je trouve ça c'est génial de sa part, son inventivité est magnifique, la solution technique de la répudiation en secret. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de répudiation en secret ? C'était la solution qui était retenue par l'homme qui, après s'être marié et avant le début de la vie commune, avait regardé dans le champ d'à côté, avait trouvé qu'il y avait une jolie dame qui lui plaisait et qui avait donc eu des relations sexuelles avec cette femme. Et il voulait poursuivre, probablement, ultérieurement, une vie avec cette autre femme. Et donc la solution pour lui, c'était de répudier, donc de poser un acte, mais une répudiation en secret. Il remettait cet acte écrit, et tout le monde comprenait que c'était lui qui avait fauté, mais qu'il entendait reprendre sa liberté et permettre à sa femme, au travers justement de l'acte de répudiation, de se remarier. Mais ça voulait dire aussi que Saint Joseph prenait sur lui une faute qui n'existait pas. Quelle merveilleuse attitude et quelle délicatesse de Saint Joseph à l'égard de Marie. Tout ça parce qu'il percevait que quelque chose, des produits qui le dépassaient. Et autant il avait constaté que le Seigneur lui avait demandé de s'unir dans le cadre du mariage avec Marie, autant il constatait qu'il n'avait pas été invité à aller plus loin que la première partie de cette célébration du mariage, et donc avant toute consommation. Moi, je trouve que ce comportement de Saint Joseph est pour tous les hommes d'une extraordinaire délicatesse, puisqu'il a su respecter complètement Marie et aller jusqu'à prendre la faute sur lui. Bon, on imagine ensuite que, à partir du moment où il a reçu enfin la visite de l'ange pour l'inviter à prendre Marie chez lui, qu'il y a eu une joie immense qui a pu saisir le cœur de Joseph, de même que Marie a immédiatement perçu que Joseph avait reçu enfin l'information qu'elle attendait, et ils se sont retrouvés dans une souffrance partagée qu'ils avaient tous les deux vécue, chacun à leur manière, et une joie extraordinaire au constat des merveilles que le Seigneur avait pu faire. Voilà. Écoutez, juste pour dire qu'au travers de ces quelques exemples, et on pourrait poursuivre, on voit combien les premiers mois qui ont suivi la rencontre de Joseph et de Marie, ce couple a été particulièrement l'objet d'une démarche spirituelle faite d'un abandon total à la volonté du Seigneur, dans un détachement et dans un abandon de toute volonté propre pour être au contraire complètement dans le mouvement que la Providence a pour eux. Voilà. Je retiens que c'est à ce moment-là simplement et à ce moment-là seulement qu'il y a eu la suite des événements et donc la naissance de Joseph et la naissance de Jésus dans les conditions que nous connaissons tous. Mais donc dans cette pauvreté, dans cette dimension d'humilité, de simplicité et d'abandon là aussi à la volonté de Dieu. Et pour reparler de Saint Joseph, soyons clairs que pour lui, ça n'a pas dû être facile non plus. Il a dû se dire, mais c'est pas possible, moi je sais pas faire, je suis mauvais, je suis un raté, je n'arrive même pas à trouver pour ma femme un endroit correct pour permettre justement à l'accouchement de se dérouler dans des conditions que tout père de famille souhaite offrir à son épouse. Et il a fallu qu'il ait cette visite des mages pour qu'il comprenne que c'était au contraire très précisément de cette manière que le plan du Dieu voulait se réaliser. Bref, c'était dur ça aussi pour Joseph, mais c'était source a posteriori d'une joie indicible. Et on voit que lorsque le pape François, dans sa lettre apostolique, là, avec un cœur de père, dit que l'attitude de Saint Joseph, c'est pas quelqu'un qui explique les événements, c'est quelqu'un qui les accueille. Et c'est vraiment une des gigantesques leçons qui nous est donnée par le Saint-Père, à nous tous, pères de famille, c'est que nous avons à accueillir des événements auxquels on ne comprend rien, mais c'est ainsi, lorsqu'on le fait dans la soumission à la volonté de Dieu, l'explication ne nous appartient pas, elle nous est donnée simplement plus tard. Et je trouve ça magnifique. Pour faire part d'éléments qui m'ont beaucoup frappé, là encore, c'est le père Caffarel qui nous le donne. Dans un de ses livres, il évoque la naissance de Jésus, donc dans la pauvreté de la crèche. Et il décrit une scène qu'il imagine, mais qui est probablement une scène qui a pu se trouver juste après la naissance de Jésus, donc lumière, née de la lumière. Les parents sont en adoration. Et Marie et Joseph sont supposés être, ce qui est assez probable, donc à genoux devant la mangeoire où repose Jésus. Et il y a Joseph qui fait part à Marie de ce qu'il ressent. Et il dit, regarde Marie, l'ordre du monde est renversé, l'ordre des choses est renversé. L'ordre des choses, c'est quoi? C'est que les parents désirent un enfant, ils décident de sa venue. Mais ici, c'est pas ça qui s'est passé. C'est notre enfant qui a choisi sa maman, c'est toi Marie, et qui m'a choisi pour être son papa, c'est moi. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de voir ce renversement qui s'est produit, car dans la Sainte Trinité, il a voulu que les choses soient ainsi. Et ils se sont, Dieu le Père s'est dépossédé au profit de son Père adoptif et de sa mère pour son éducation au quotidien, alors même qu'il était la lumière du monde. Là, je fais juste un parallèle parce que enfin, tout le monde se souvient qu'il y a 2 ou 3 jours, c'était la colonisation de Charles de Foucault qui lui-même a passé 3 ans à Nazareth pour s'enfuir dans cette réalité de Nazareth. Et il a beaucoup écrit et notamment il a évoqué la manière dont il perçoit que Jésus a pu vivre cet enfouissement à Nazareth. Et il dit, je cite, « Tous ceux qui veulent être parfaits doivent vivre pauvrement dans l'imitation la plus fidèle de la pauvreté de Nazareth. » Et il poursuit en prêtant ces mots à Jésus. « Combien je prêche à Nazareth ? Je prêche l'humilité en passant 30 ans dans ces travaux obscurs. Je prêche l'obscurité en restant 30 ans si inconnu, moi la lumière du monde. Je prêche l'obéissance, moi qui étais soumis pendant 30 ans à mes parents, saint sans doute, mais homme, et je suis Dieu. » C'est marrant, on voit aussi la puissance de la contemplation de tous ces événements par Charles de Foucault. Mais ça ne surprend personne parce qu'il est à l'image de saint Joseph. On pourrait faire des parallèles entre saint Joseph et puis Charles de Foucault parce que le silence qui a été le sien au quotidien est considérable. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas un mot de saint Joseph qui soit reproduit dans la Bible, tandis que Charles de Foucault en a écrit beaucoup. Voilà, écoutez, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a donc un pape aussi qui aide énormément à la redécouverte de saint Joseph. Et vous le savez certainement, mais tous les événements qui historiquement se sont produits pour le pape François traduisent justement cette volonté du ciel de permettre à l'Église de retrouver saint Joseph, notamment à la faveur du 150e anniversaire de sa proclamation, comme le patron de l'Église universelle. C'est quand même pas rien. Il est tout à la fois le père adoptif de Jésus, il est l'époux de Marie, et il est le patron de l'Église universelle. Et l'un des éléments les plus puissants et incontestables, c'est tout simplement l'inauguration du pontificat du pape François. C'était le 19 mars. Le 19 mars, c'est le jour de la Saint-Joseph, en 2013. Donc, et d'ailleurs, comme lui-même l'a dit dans son homélie, c'est une coïncidence qui est très riche de signification. Lorsqu'on regarde aussi les armes pontificales, on retrouve Saint-Joseph. Il y a le IHS, parce que lorsqu'on est jésuite, on ne l'oublie pas. Il y a Marie sous la forme d'une étoile, mais il y a aussi la fleur de nard qui est le symbole de Saint-Joseph. Et donc, on retrouve la dimension de la Sainte Famille dans les armes mêmes du pape François. Et puis, on se rappelle aussi que c'est lui qui a réintroduit dans le 2e, le 3e et la 4e prière eucharistique la mention de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, qui n'apparaissait plus que dans le premier canon. Et puis on se rappelle aussi que dès le mois de juillet de 2013, il a consacré l'état du Vatican à Saint-Joseph, et il savait que c'était indispensable parce qu'il avait comme mission de réformer la curie, et si on veut réformer donc l'Église universelle, se mettre sous la protection de Joseph, c'était une quasi-évidence pour lui. Voilà. Et puis ça continue, sa lettre apostolique traduit son amour illimité, certains diraient immodéré, pour Saint-Joseph, qui est un exemple extraordinaire. Et ce que je trouve merveilleux aussi dans le message que le pape François nous a donné, là encore dans sa lettre apostolique, c'est son 7e chapitre qui s'appelle « Père dans l'ombre », parce qu'il a développé la mission d'éducateur qui était celle de Joseph et de Marie de manière exceptionnelle. Je cite là les mots qu'il a retenus. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ. Je trouve ça magnifique. Et il évoque justement que s'il est appelé chaste, parce que c'est une chasteté dans le fait de se libérer de la possession. Il oppose justement la possession à la chasteté qui laisse libre, libre dans tous les domaines de la vie. Et donc Saint-Joseph, c'est un exemple de logique du sacrifice, non pas du sacrifice de soi, mais du don de soi. Et c'est tout le magnifique exemple qui nous est donné avec Saint-Joseph. Donc plus on s'approche de Saint-Joseph, plus on relie d'ailleurs la prière et plus on se laisse pénétrer par la prière donnée par le pape François, plus on découvre la beauté de son silence, son intériorité et la puissance et son rayonnement dans cet accueil de toute la volonté du Seigneur dans toutes ses manifestations, même si on ne les comprend pas sur le moment. On pourrait en dire beaucoup, mais je crois que c'est l'essentiel de ce qu'on peut déjà conserver pour aujourd'hui. Il y en a plein d'autres qui pourront compléter de manière très utile et faire grandir cet amour et cette connaissance qui vont avec d'ailleurs de Saint-Joseph dans le cœur de tous ceux qui vivent dans la foi, puisque c'est ainsi que le Seigneur nous a donné un père et une mère, et de même que Marie conduit à Jésus, Joseph nous conduit à Marie, qui nous conduit à Jésus, c'est tous ensemble qui nous conduisent à Jésus, et je trouve qu'on peut terminer en disant il nous appartient de constater qu'il y a trois cœurs unis, il n'y a pas simplement le cœur de Jésus et le cœur de Marie, mais le cœur de Joseph et le cœur de Marie sont aussi unis l'un que l'autre au cœur de Jésus. Et nous sommes invités à prendre Marie pour mère, mais aussi à prendre Joseph pour père. Et c'est en donnant la main et à Marie et à Joseph qu'on a les meilleures conditions pour arriver justement là où le Seigneur nous veut, c'est-à-dire auprès de lui au ciel. Voilà.
Et au ciel, déjà, dès ici-bas, dans cette, vous le rappelez, cette pauvreté et cette humilité qui laisse transparaître tellement le cœur de Dieu. Merci, en tout cas, c'était le centième de ce que vous voulez dire, mais ce centième, je pense qu'il a fait du bien à beaucoup de nos auditeurs d'avoir retracé cette figure de père spirituel d'une très haute profondeur, celle de Saint-Joseph. Jacques de la Bastide, c'est un bonheur de vous entendre. Et dans l'amitié qui nous lie à Saint-Joseph, je vous salue bien. Chers auditeurs, c'était votre émission consacrée à Saint-Joseph. Nous étions avec Jacques de la Bastide. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.